Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique.
Les sociétés secrètes de l'ésotérisme à la lumière de la Bible. Alors, je ne sais pas comment ce que vous souhaitez entendre ce soir, mais est-ce qu'on ne mettra pas trop l'accent sur, en tout cas, je ne mettrai pas trop l'accent sur l'ésotérisme, les sociétés secrètes. Je m'arrêterai un peu plus sur le regard biblique sur ces réalités-là, parce que vous doutez bien, en une soirée, on ne va pas faire le tour des sociétés secrètes ni de l'ésotérisme. C'est un monde, un univers gigantesque. Et moi, j'ai passé peut-être quelques années à étudier tout cela, c'est pas en une heure qu'on va faire le tour. Hein. Alors, comment on va traiter cela ? Donc, je vais commencer par donner quelques mots de témoignage. Donc, j'ai été proche des Rosicruciens, donc je vais donner comment j'ai découvert ce monde ésotérique. Et puis ensuite, on aura Eric, donc Lerman, qui va nous donner un témoignage, lui, comment il a connu la franc-maçonnerie et ensuite l'évangile. Et ensuite, on va donner quelques généralités sur l'ésotérisme, sur les sociétés secrètes. Et puis après, donc, on s'arrêtera davantage sur comment la Bible peut-elle, comment à partir d'un regard biblique, on peut évaluer toutes ces choses. Alors, je vais commencer donc par un témoignage. Alors, je ne suis pas forcément allé très loin dans l'ésotérisme, mais j'étais passionné quand, à partir de, je dirais, j'ai découvert le monde de l'ésotérisme d'abord, ça peut paraître surprenant, mais à partir du hard rock. Alors, il n'y a pas beaucoup de rapports, mais j'étais un athée assez radical et je jouais, alors ça se voit peut-être pas beaucoup maintenant, mais j'avais une grosse tête de cheveux, je jouais du hard rock dans un groupe de musique assez virulente. Et le monde du hard rock, heavy metal, toutes ces choses-là, en fait, fait référence très souvent. Vous êtes remarqué avec des esprits, avec des signes kabbalistiques. Ça a été... je me suis intéressé à travers les paroles des chants de hard rock, d'une part. Et puis, d'autre part, j'étais amené à étudier la cartomancie. Mais c'était pour rendre service à une personne. Elle me demandait de lui lire certains livres et de lui expliquer pour qu'elle apprenne elle-même à tirer les cartes. Alors je l'avais fait pour aider cette personne. Et donc j'avais appris les techniques. Alors bien sûr, je croyais ni Dieu ni diable, mais j'ai commencé à travers ces pratiques-là, je dirais, à connaître certains éléments de, par exemple, de la cartomancie, de la numérologie et donc de la cabale aussi, parce qu'il y a des liens derrière tout ça. Et derrière les jeux de tarot, en fait, c'est pas simplement un petit jeu. Alors oui, je reviendrai tout à l'heure sur la cabale, oui. Derrière le jeu de tarot, par exemple, c'est pas simplement un jeu de cartes, il y a toute une réflexion philosophique et occulte aussi, d'ailleurs. Et donc, moi, j'avais appris à faire ces choses. Et puis ensuite, j'ai découvert à travers ça, ça m'a donné envie de chercher, parce que dans l'athéisme que je professais, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de réponses sur les grandes questions de la vie, hein, sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, d'où venons-nous. Alors les réponses sont un peu simplistes, enfin c'est des réponses, on vient du hasard, on va à nulle part, on est là sur la terre, point final, il faut vivre sa vie sur la terre, mais c'est vrai que ça répond pas forcément aux grandes questions qu'on se pose sur le sens. Et donc, j'ai cherché, entre guillemets, il se trouve que j'ai un ami qui me parlait un peu de ses expériences aussi spirituelles. C'était un artiste il était vraiment très très doué, il avait mon âge, là, à l'époque j'avais, je me souviens, à peu près 18 ans, mais lui était vraiment très brillant et il était sûrement appelé à un grand avenir, je ne l'ai pas revu d'ailleurs depuis. Et parce que certainement il avait un grand avenir, il avait été contacté par les francs-maçons. Et il m'avait raconté comment sa démarche spirituelle l'amenait à découvrir une quête de vérité, des éléments de vérité sur le sens de la vie. Alors on avait échangé comme ça à plusieurs reprises, et c'était un des éléments qui m'a introduit au monde des sociétés secrètes. Et alors sans y être entré tout de suite, j'ai commencé à lire différentes choses, et puis je suis tombé très vite sur des livres... Rosicrucien. Alors les Rose-Croix, c'est un mouvement aussi proche, on va dire, de certains courants francs-maçons. C'est un mouvement ésotérique et puis qui prône aussi une quête du sens de la vie. Et donc, à l'époque, j'étais à Paris, là, dans le 3e arrondissement, et il y avait une librairie ésotérique juste à côté de Beaubourg. Là, à Beaubourg, quand je montais au 3e étage de la librairie, tout le devant du 3e étage à l'époque, c'était tout le rayon ésotérisme, occultisme, etc. Donc, je me suis intéressé à tout cela, j'ai commencé à fréquenter, à participer à des conférences sur les Rosicruciens. Et en fait, après, donc, je me suis retrouvé à Grenoble comme étudiant, mais j'ai poursuivi cette recherche et j'allais beaucoup plus souvent à un cercle rosicrucien sans adhérer vraiment, mais plus j'étudiais, c'était presque une Bible pour moi, l'un de leurs livres de Max Endel, il s'appelait qui traitait de je dirais, le titre d'ailleurs, c'était Christianisme ésotérique. Alors, donc, c'était un mélange un petit peu, mais il citait beaucoup la Bible dedans, et c'était l'un des maîtres rosicruciens. Donc, j'ai approfondi cet enseignement, je participais à ses conférences, à des études, en quelque sorte, et ça me passionnait tellement, je me disais, mais vraiment, là, j'aurais certainement des éléments de réponse, et j'avais commencé à faire, d'ailleurs, les démarches pour arrêter mes études, à l'époque c'était maths et informatique, et partir à l'université rosicrucienne des États-Unis. Il y avait une université, bonsoir, hein, installez-vous. Donc j'étais presque sur le point de partir, et en même temps, dans cette recherche, eh bien, j'ai commencé à prendre conscience qu'elle aboutissait certainement à la recherche, à la découverte de Dieu. Du Dieu créateur de toutes choses. Alors moi, à l'époque, je quittais progressivement mon athéisme pour prendre conscience de la réalité de Dieu, que j'avais découvert aussi à travers des pratiques occultes, en faisant tourner des tables, en faisant différentes choses. Je m'étais rendu compte qu'il y a réellement des forces spirituelles. Alors ce qui s'est passé, c'est que à partir de cette période, j'ai commencé à entendre parler de différents courants ésotériques. Et un jour, je suis tombé sur un livre à la bibliothèque de Grenoble, je me souviens, à la bibliothèque des sciences humaines de Grenoble. Il y avait un livre, je me rappelle, c'était un comparatif de différents courants ésotériques. Et ça m'avait beaucoup interpellé. En tout cas, je pense qu'avec du recul, Dieu m'a parlé à travers ce livre. Parce que en comparant différentes sociétés secrètes, des francs-maçons, des alchimistes, Martinis, enfin différents courants, la Kabbale dans laquelle je m'étais aussi pas mal impliqué, j'avais commencé à apprendre l'hébreu d'ailleurs à la faculté des sciences de Grenoble. La Kabbale, c'est une, on va dire, une approche plutôt ésotérique des textes de la Bible qui reprend des valeurs numériques autour des versets de la Bible, mais qui en fait une sorte de livre un peu magique réservé à des initiés. Donc dans tout ce mélange, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreux courants et que finalement il y avait des points communs, mais il y avait aussi pas mal de choses contradictoires. Et toutes ces contradictions, elles m'ont mis la puce à l'oreille en me disant, mais qui a raison dans toutes ces choses-là? Et je remarquais, en tout cas dans tous les courants ésotériques que j'avais parcouru, étudié sans aller très très loin, parce que c'est une vie entière ne suffit pas, hein, pour étudier tous ces différents courants, mais en tout cas de ce que j'avais étudié pendant des heures, des mois, peut-être déjà des années, eh bien je me rendais compte que dans ces contradictions, je trouvais un point commun dans ces différents courants ésotériques, c'est qu'ils citaient très souvent la Bible. Et je me disais, mais c'est vrai que la Bible, moi finalement, je connais rien du tout de la Bible. Je m'en moquais avant, mais je me disais quand même, ce livre, du fait qu'il est cité par tous ces auteurs, il doit y avoir quelque chose dedans. Alors j'avais rencontré aussi vers cette période des chrétiens, protestants, évangéliques, même d'ailleurs des catholiques sur le campus, qui semblaient, en tout cas ceux que j'avais rencontrés, vraiment attachés à la Bible, connaître la Bible. Et je me disais, tiens, alors j'ai regardé un peu naïvement, je me disais, des chrétiens, ils n'ont pas le savoir ésotérique, donc ils comprennent pas grand-chose finalement, véritablement à la Bible, ils se réfèrent à la Bible, mais ils n'y comprennent pas grand-chose. Moi, je connaissais rien du tout, mais j'avais cet a priori à travers ces différentes approches ésotériques que j'avais. Et j'ai commencé à participer aussi à un groupe évangélique. On m'avait demandé de venir et d'exposer justement, de dire, mais voilà, dis ce que tu crois et confronte un peu tes idées. On m'avait dit, alors j'étais allé effectivement et je parlais de mes idées rosicruciennes, un peu bizarres, fumeuses dans tous les sens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un cheminement dans mon parcours, c'est que Un jour, je me suis dit, il faut vraiment que je me mette moi-même à lire la Bible. Parce que c'est vrai qu'on cite la Bible, surtout chez les Rosicruciens, c'était vraiment évident. J'avais un livre que je lisais, mais religieusement, un petit livre de méditation alchimique, ça s'appelait le titre. Méditation alchimique. Et l'alchimie, alors bien sûr, souvent la vision très générale qu'on a de l'alchimie, c'est comment transformer du plomb en or. Mais ça, c'est qu'une vision vraiment pour donner une impression de personne préoccupée par les sciences ou les travaux. Mais derrière, c'est un autre débat derrière les alchimistes. Dès qu'on connaît un peu le niveau un peu plus avancé, la préoccupation des alchimistes, en tout cas de l'époque et des livres que je consultais, c'était pas tellement de transformer du plomb en or, mais c'était de transformer l'être humain tel qu'il est en un homme nouveau. En découvrant une régénération complète de son être, en étant transformé par la puissance même de l'Esprit de Dieu et du Christ. Alors c'est intéressant parce qu'il y avait dans ces livres de méditation alchimique plusieurs citations de la Bible qui me pressaient d'abord à connaître moi-même davantage la Bible et à vivre cette expérience. Mais sauf que bien sûr, si on suit la méthode alchimique, c'est que dans le courant, que dans leurs initiations à eux qu'on peut découvrir cette approche-là. Alors j'ai laissé un peu de côté ces approches ésotériques et je me suis dit je vais me concentrer sur la Bible. Et je rencontrais des chrétiens, mais là aussi je prenais avec du recul ces choses-là et je me mettais de manière beaucoup plus régulière à prier Dieu, un Dieu qui me paraissait pourtant très loin. Mais je me disais, il y a certainement un Dieu qui doit m'écouter. Ce livre, la Bible, n'est certainement pas venu comme ça, bonsoir, elle n'est pas venu au hasard. Et il y a certainement quelqu'un qui l'a inspiré. Je commençais à découvrir des choses assez spectaculaires dans ce livre de la Bible. Alors j'ai commencé à prier de manière plus précise ce Dieu et lui demander qu'il me fasse passer par des étapes initiatiques qui m'amènent à le connaître vraiment. Et je suppliais Dieu de me préserver, parce que je sentais tellement d'errance, tellement de contradictions dans ces différents courants, et je me rendais compte qu'il y avait des gens aussi un peu bizarres dans ces mouvements, comme je voyais aussi des gens bizarres dans le christianisme. Mais là, je me disais, voilà, certainement que l'évangile, que je commençais à découvrir un peu, le message de la Bible est quelque chose qui, si j'arrive à le saisir, me permettra d'accomplir ce que, par exemple, ces alchimistes parlent de cette transformation, ou décrivent de cette transformation. Alors voilà, j'ai cheminé comme ça. Pour faire très court, j'ai été amené un jour à dire, tiens, finalement, la Bible, c'est un livre qui me... D'ailleurs, c'était le même format que ça que j'avais, la première Bible que j'avais. Je disais, c'est écrit tout petit là-dedans. En plus, un français un peu désuet, d'ailleurs, sur celui-là, parce qu'il y a encore les subjonctifs passés, il y a encore les... Alors moi, je lisais, mais je dévorais quand même ce livre. Il n'y a d'ailleurs aucune note, mais je lisais, je soulignais, je trouvais des choses vraiment extraordinaires. Et puis j'ai décidé même, je me dis, mais finalement, les chrétiens, ils sont pas si bêtes que ça, je me disais. Et dans ce groupe évangélique, j'ai dit, je vais me faire baptiser avec eux. Alors, d'ailleurs, quand j'ai dit ça à un des responsables, tu veux me faire baptiser? Ah bon? Il m'a dit, mais comment ça se fait? Alors, il m'a posé plusieurs questions. Est-ce que tu crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Alors, j'ai dit, oui. Est-ce que tu crois que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu? Mais il ne savait pas qu'à côté de ça, j'étais imprégné d'ésotérisme. Chez moi, je lisais la Bible, mais ensuite, je consultais encore mes livres d'alchimie et de franc-maçon, ou surtout de rosicrucien. Alors, je me suis fait baptiser. On a accepté que je me fasse baptiser. Et puis, j'ai eu une période, pendant plusieurs mois, où je fréquentais un tout petit peu cette église évangélique, et puis en parallèle, je continuais à lire la Bible et à me référer quand même progressivement, je dirais de moins en moins en fait, aux livres ésotériques, et je demandais à Dieu de me montrer dans ce livre que je considérais finalement comme le livre par excellence inspiré de Dieu. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette conviction, mais je pense que c'est un miracle de Dieu d'être arrivé à cette conviction avant même d'avoir compris le message qui est dedans. Mais j'avais cette conviction que ce livre, il faut dire, j'avais même assisté à une étude biblique, je me rappelle, ça m'avait marqué, c'était donné par quelqu'un qui s'appelait Henri Briand, et il expliquait à partir de Daniel chapitre 9 plusieurs des prophéties. J'avais été fasciné de voir les prophéties de la Bible, il montrait comment plusieurs des prophéties sont accomplies. Je me disais, mais vraiment, ça me confirme que ce livre n'a pas pu être écrit écrit par des hommes, simplement. Il a dû être inspiré par ce vrai Dieu. Alors, j'ai fait pendant plusieurs mois ce parcours parallèle entre l'ésotérisme et puis la Bible, et un petit pied de temps en temps dans une église évangélique, et puis tout en vivant encore complètement dans la débauche d'ailleurs, et dans le désordre complet. Mais ça c'est vrai qu'il faut un éclairage plutôt de Dieu lui-même pour comprendre les changements de vie. Mais un jour, il y a eu un grand, grand basculement. C'était un soir, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu ma vie défiler. Alors, c'est d'habitude, les gens racontent ça quand ils sont proches de la mort. Hein. Je vois aujourd'hui des gens qui ont un accident de voiture, ils voient leur vie défiler. Moi, seul dans ma chambre, un soir, je n'ai pas compris pourquoi ça s'est passé, mais j'ai vu mais vraiment des scènes très, 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 très fortes de ma vie. Alors, ça m'a paniqué un peu d'abord, parce que je n'avais jamais vécu une expérience comme ça. Et puis, dans ces scènes, ce qui m'a frappé, c'était l'égocentrisme de ma vie. Tout était centré sur moi, 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 moi. Et ce soir-là, ça a été, j'ai pris conscience que Dieu existait, mais qu'il est un Dieu qui est saint, un Dieu qui ne tolère pas le mal, qui est d'une pureté absolue. Et moi, je me sentais, en voyant défiler ma vie, une grande noirceur à l'intérieur de moi, une grande impureté. Et voilà, j'ai repensé à ce soir-là, à des textes que j'avais lus dans la Bible. Non pas que j'avais simplement, je dirais, lu le jour même, mais qui s'était gravé dans mon esprit pendant les mois précédents, et en particulier sur Jésus-Christ, sur ce qu'il avait accompli pour moi. Je me souviens, quelques jours avant, je me tournais en dérision un chrétien qui me parlait de la croix de Jésus-Christ, qui était mort pour nous. Pourtant, moi, je m'étais fait baptiser et tout, mais je me moquais de lui en disant, mais tu comprends n'importe quoi, Jésus mort pour nous. Je n'avais vraiment pas compris le message de l'Évangile. Mais... là, ce soir-là, quelque chose s'est passé autour de la mort de Christ, pour moi. J'ai compris le rapprochement entre ce que Jésus avait vécu et ma propre expérience. Et ce soir-là, donc, il y a eu un moment où, comme je disais, c'était un grand basculement. Il y a eu un moment comme d'effondrement, parce que je sentais tellement d'impureté en moi. Et en même temps, j'ai découvert combien Dieu m'aimait. J'ai découvert, par exemple, le verset qu'on dit souvent, qui résume peut-être le plus clairement le message de la Bible dans l'évangile de Jean. Hein. Dieu a tellement aimé le monde, et moi-même en particulier, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle hein, qui commence maintenant et qui se prolonge en l'éternité. Eh bien, ce soir-là, j'ai compris que Dieu m'avait vraiment aimé. D'un amour très particulier. Et là, ce soir-là, donc, il y a eu un grand basculement parce que j'ai pris conscience tout d'un coup que toute cette impureté, eh bien, quelqu'un avait payé pour moi. Quelqu'un l'avait prise sur moi, cette impureté, à la croix. Ce quelqu'un, c'était Jésus. Et c'est tout ça par amour pour Dieu. Et quand j'ai compris ça, sans qu'on me l'explique, parce qu'avant, on me l'avait expliqué, mais je comprenais strictement rien, mais là, c'était comme une révélation. Et il y a eu un basculement très fort. Et là, j'ai découvert ce que je cherchais tellement désespérément dans ces méditations alchimiques, cette transformation intérieure. Là, je l'ai découvert de manière toute simple, par la venue du Christ dans ma vie, la venue de l'Esprit qui m'a bouleversé complètement et qui a vraiment changé ma vie de manière définitive. Je peux dire à partir de là, même si, bien sûr, on n'est pas parfait une fois qu'on découvre ça, mais en tout cas, on entre comme dans une autre réalité de la présence de Dieu, de la réalité de Dieu. Et donc, voilà pour mon chemin. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce jour-là, j'ai eu la conviction de couper avec ces livres, ces pratiques alchimiques, ces pratiques rosicruciennes surtout. J'ai marqué une rupture. Et puis après, donc, pour d'autres raisons, j'étais ramené à réétudier un peu cela, mais pour pouvoir parler aux personnes que je connaissais de ce milieu-là. Alors voilà pour mon parcours, c'était plus long que prévu, mais on commence par un témoignage et on va suivre par un deuxième témoignage. Je vais demander donc à Eric si tu veux nous raconter un peu toi ton parcours dans la franc-maçonnerie et dans ton cheminement spirituel. Je te laisse la place.
Très bien, merci. Je viens aussi avec ma Bible, celle qui a été importante. Et donc ce témoignage, je voudrais déjà commencer par dire que eh bien, Dieu, dans son infinie miséricorde, a toujours été présent dans ma vie. Et ça, il y a encore quelques années, je ne pouvais pas le dire, parce que les choses n'étaient pas claires. J'étais un peu, on va dire, égaré. Mais Dieu, dans sa bonté, m'a toujours protégé et m'a envoyé des signes rétroactivement. Il se trouve que dans le cheminement qu'on a, dans le cheminement tel que Reynald l'a décrit, on ne se rend pas compte que Dieu agit en bon père et petit à petit nous permet de le comprendre, qui il est. Et donc, mon témoignage va tourner autour de ça. Donc, Reynald a eu un parcours très rapide qui l'a amené à rencontrer Dieu assez rapidement dans sa vie. Moi, je dirais que on a à peu près le même âge. Mon témoignage est totalement différent. Moi, j'ai rencontré Dieu il y a moins de 10 ans, en fait. Ça a commencé en 2006. Mon véritable parcours conscient, moi, Eric, conscient face à Dieu, que Dieu était présent, même si ça n'a pas été un choc, une révélation immédiate, que les choses se sont faites progressivement. Et donc, le témoignage, Reynald m'a demandé le témoignage sur mon expérience maçonnique. J'étais franc-maçon entre mes 30 et mes 40 ans. Et aujourd'hui, j'ai 55 ans. J'ai préparé donc mon témoignage dans un premier temps, en vous indiquant quel était le contexte de ma vie, qu'est-ce qui m'a amené avant mes 30 ans à faire que j'ai cette démarche maçonnique. Et puis après, dans un deuxième temps, je vous indiquerai qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans de maçonnerie et comment Dieu, à toutes les étapes, finalement, rétroactivement, nous a parlé. Et puis après ces 40 ans, entre ses 40 et ses 45, 46 ans, puisque Dieu a commencé à me parler véritablement à 46 ans, de façon consciente, même s'il a toujours été présent dans les étapes préalables, j'en ai eu conscience à partir de mes 46 ans, on va dire. Et voilà, donc, cette première partie, comment, de ce contexte, pourquoi est-ce que je suis parti de cette façon-là dans la maçonnerie? On va dire que ce contexte, je voulais l'exprimer autour de mon histoire et du contexte de la vie que j'ai eue avant mes 30 ans. Je suis issu d'une famille chrétienne, catholique par ma mère et ma famille maternelle, et protestante, luthérienne, par ma famille paternelle. On va dire que j'ai grandi dans une famille classique, avec une éducation classique où Dieu était présent, mais comme une tradition, on va dire. J'ai été à l'église, j'ai fréquenté l'église catholique jusqu'à mes 20 ans, mais sans véritablement avoir une relation véritable à Dieu. Et en fait, en même temps, en disant ça, rétroactivement, je me rends compte que c'est faux. Et donc la prière était présente, mais il y avait une croyance qui n'était pas véritablement là. Donc Dieu était présent, mais il y avait un égarement. Donc entre ces 20 et ces 30 ans, il y a j'ai voulu retenir trois dates. 1968, né en 60, j'avais 8 ans. 1981, j'avais 21 ans, avec l'élection de François Mitterrand. Et 1989, le bicentenaire de la Révolution française. Et donc, 68, qu'est-ce que c'est ? 68, c'est un petit peu la fin de l'hypocrisie, la fin de l'hommage du vice à la vertu. Si on reprend un moraliste du XVIIe siècle, dont le nom m'échappe présentement, mais je l'ai noté, c'est pas Pic de la Mirandole, mais c'est La Rochefoucauld. Donc La Rochefoucauld, il a cette maxime célèbre, c'est... véritablement l'hommage du vice à la vertu. Et donc 68, c'est véritablement la fin de cette époque hypocrite. Fin d'une hypocrisie, mais dans le même temps, on pourrait se tourner vers Dieu, mais on ne se tourne pas vers Dieu, on se retourne vers une idolâtrie massive, si j'emploie aujourd'hui un vocabulaire religieux, biblique, chrétien, tel que Dieu nous l'enseigne dans la Bible. Et donc, 68, c'est véritablement, en effet, la fin de l'hommage du vice à la vertu. Et donc, j'avoue que j'ai été fortement marqué par ça. Et j'aborais l'hypocrisie en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, portée par les utopies, par l'utopie du moment. 80, c'est véritablement eh bien, la consécration de la fin de cette hypocrisie, puisqu'on a à cette époque-là un socialisme bon teint, progrès social, de progrès de l'humanité, avec tout un discours de transcendance derrière tout ça, avec un discours de transcendance de l'homme par l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs fortement prégnant dans la société française. Et puis après, 1989, eh bien, ce bicentenaire de la Révolution, où on a tous les grands de ce monde qui se retrouvent place de la Concorde avec Margaret Thatcher, chrétienne, protestante, Ronald Reagan, chrétien aussi, et puis François Mitterrand, agnostique. Et donc, c'est véritablement la posture française, l'agnosticisme, et j'avoue que j'ai été aussi moi-même dans cette posture. Ayant une certaine révérence vis-à-vis de Dieu, mais considérant que Dieu, bah, c'est une vieille chose qui ne nous parle pas véritablement, etc. Et donc, voilà, c'est d'un point de vue historique, ces trois dates-là m'ont marqué, enfin, sont une partie constitutive de ce qui m'a amené à la maçonnerie. Après, dans un deuxième temps, il y a tout ce chapitre philosophique, avec tous ces philosophes qui sont liés aussi à la culture classique française, hein, quand on s'intéresse à la littérature ou à l'histoire ou à la philosophie, telle qu'on nous les enseigne au lycée et après dans nos études supérieures, eh bien on voit qu'il y a tout ce culte rendu aux philosophes, donc les philosophes antiques, on parle des philosophes antiques. Après, on va parler des philosophes du Moyen-Âge ou de la Renaissance qui sont chrétiens, enfin qui ont un fond chrétien, mais on va occulter ce fond chrétien et on va s'intéresser à Descartes, à la raison, on va s'intéresser à Voltaire, on va s'intéresser à Rousseau, et là petit à petit on voit bien qu'on s'éloigne de plus en plus de Dieu, même si ces gens-là sont encore profondément chrétiens. Et puis on va finir par arriver à des grands philosophes du XIXe siècle qui ont profondément marqué notre histoire récente, avec des gens comme Karl Marx et Nietzsche. Et donc, on va dire que d'un point de vue philosophique, très clairement, j'ai été sous l'influence de ces idées, de ces idéaux, et c'est des idées qui sont encore très présentes dans la société française et dans la société occidentale. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Cette deuxième partie, et cette partie, elle est aussi importante et elle permet de comprendre la posture politique qu'on peut avoir. Ou donc, finalement, quand on voit 1989, où tout le monde, tous les grands de ce monde se réunissent pour se prosterner devant la Révolution, comme un idéal véritablement, ça veut dire qu'on met au pinacle la rébellion. Et on met au pinacle la transcendance de l'homme par l'homme. Et donc, naturellement, en tant que Français d'éducation rationaliste, j'ai été attiré vers la maçonnerie. Puisque, tant qu'à faire, le temple de la raison en France, eh bien, c'est la maçonnerie. Et c'est le Grand Orient de France. Le Grand Orient de France. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aborder là cette deuxième partie, entre mes 30 et mes 40 ans, cette époque où j'ai véritablement été franc-maçon. Et donc, dans un troisième temps, je vous indiquerai comment Dieu, petit à petit, m'a parlé. Mais donc, dans cette deuxième phase, ce que je voulais, c'était commencer par vous lire, alors je suis allé sur le site du Grand Orient de France hier, et vous lire un petit peu comment ils se décrivent. Et donc... je vais vous indiquer quels sont les termes qui prennent, et on voit comment le diable est à l'œuvre, parce que manifestement on est bien dans ce dispositif. Et donc, à leur définition du Grand Orient de France, la franc-maçonnerie moderne est un produit du siècle des Lumières. Elle est issue de la transformation, à partir de 1645, d'une vieille société de métiers en une association de rencontres et de réflexions. La première grande loge se forme à Londres, alors capitale des idées philosophiques, en 1717. Le Grand Orient de France est lui la plus ancienne et la plus importante obédience maçonnique d'Europe continentale. Née en 1728 comme première grande loge de France, Il a pris sa forme et son nom actuel en 1773. Aujourd'hui, le Grand Orient rassemble plus de 49 000 membres, inscrits dans plus de 1200 loges. Il propose une voie humaniste, initiatique et fraternelle. En effet, pour le Grand Orient de France, le perfectionnement individuel que permet l'initiation maçonnique et sa méthode fait un devoir aux francs-maçons de réfléchir aussi aux problèmes du monde et aux questions de société. C'est l'une des spécificités par rapport à d'autres obédiences maçonniques que vaut l'amélioration intellectuelle, morale ou spirituelle d'un homme si elle ne conduit à s'intéresser à l'autre et à son destin. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit bien que dans cette définition, on a ces notions de moderne, siècle des Lumières, Londres à leur capitale des idées philosophiques, voie humaniste, initiatique, fraternelle, perfectionnement individuel, initiation. Et donc que vaut l'amélioration intellectuelle, pour finir, morale et spirituelle d'un homme si elle ne conduit à s'intéresser à l'autre et à son destin? Et on voit bien que au travers de tout ce descriptif, eh bien ce descriptif, il est basé sur quoi? Il est basé sur deux tentations. La première, c'est la tentation des philosophes antiques, Platon et Aristote. Et ça, c'est la première chose. Et après, derrière, on a la tentation gnostique. Et la tentation gnostique, c'est véritablement, dans le mot gnostique, il y a le mot gnose, la connaissance. Et donc, on est toujours dans cette double idée que l'homme doit être le maître de son destin, doit être le maître de la connaissance et doit connaître la connaissance. On en revient toujours à l'arbre de la connaissance, le fruit défendu, l'arbre du bien et du mal. Et on voit bien qu'il y a toujours cette tentation de vouloir tout expliquer, de vouloir tout maîtriser. Et cette tentation gnostique, c'est vraiment ça. Parce qu'avec la gnose, on est dans un dispositif de société initiatique. Alors, Reynald, tout à l'heure, a parlé des Rosicruciens. Il y a plein de sociétés gnostiques. À l'époque du Christ, à Rome, il y a une foultitude de cultes à mystère, comme on les appelait alors. Et ces cultes à mystère, eh bien, ils étaient toujours basés sur les mêmes principes de l'initiation. Et donc, par ce dispositif initiatique, faisant qu'on arrive à une connaissance, on arrive à une perfection, et on arrive soi-même à l'égal de Dieu, en fait. Toujours cette volonté de l'homme de se prendre pour ce qu'il n'est pas, et toujours cette volonté de l'homme de vouloir tout expliquer, et de vouloir, par ce dispositif initiatique aussi, se démarquer de l'autre. Parce que si... l'un est initié que l'autre ne l'est pas, eh bien c'est une différence. Et ça, véritablement, c'est la tentation. C'est la tentation. Et moi, j'avoue que j'ai été fortement tenté, puisque je suis rentré en maçonnerie à 30 ans. J'en suis parti à 40 ans. Mais on va dire que j'ai donc eu mon initiation. Ça, je ne sais pas si vous connaissez les principes, mais on commence à être... Parce que pour rentrer en maçonnerie, il faut être interviewé, à subir des enquêtes. Donc vous avez eu 3 enquêtes, des gens qui vous interviewent chez vous ou en extérieur, qui vous demandent qui vous êtes, alors vous racontez votre vie, etc. Et puis après, ben, si vous passez une épreuve qui s'appelle l'épreuve du bandeau, cette épreuve du bandeau, eh bien on a les yeux bandés, on est face à un auditoire qu'on imagine. En fait, ça se passe dans un temple. Et donc, on est soumis à la question. On nous pose des questions et on répond. Et donc, on voit bien que tous ces dispositifs, c'est quoi? C'est un dispositif à la fois de magnétiser le mystère. C'est aussi un dispositif qui est là pour flatter l'ego, flatter l'orgueil, la vanité de ceux qui voient, de celui qui ne voit pas. Mais même celui qui ne voit pas, il est reçu dans un lieu... manifestement où tout le monde ne va pas, donc il est aussi lui-même flatté. Donc on voit bien qu'on est véritablement dans le jeu de la séduction du diable, de cette fascination réciproque. Et après ça, donc, il y a tout ce dispositif initiatique. On commence par être apprenti. Quand on est apprenti, on n'a pas le droit à la parole. Donc, il y a des études qui se font deux fois par mois. Et donc, pendant ces études, on écoute la personne qui présente son étude. En l'occurrence, la personne, on l'appelle un frère. Et donc, on voit bien qu'une fois de plus, toute la terminologie, c'est une terminologie qui, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est à la fois, au départ, toute cette tradition maçonnique ou ésotérique, c'est à la fois bâti sur, d'une part, les philosophes antiques, et d'autre part, sur cette tentation gnostique. Et donc, cette tentation gnostique n'existe aussi que parce que le christianisme a été là. En maçonnerie, un des slogans de la maçonnerie, c'est « liberté, égalité, fraternité ». C'est aujourd'hui le triptyque de la République française. Mais c'est aussi des termes qui sont fortement, que Dieu emploie fortement et il nous invite à comprendre véritablement ce que ça veut dire. Et dans la Bible, il nous est clairement indiqué que la seule liberté qu'on peut avoir, c'est en se libérant de nos idoles et en se consacrant véritablement à Dieu. Et on voit bien que la liberté, là, est prise dans un sens totalement opposé, puisqu'elle nous invite à nous intéresser et à rendre culte à un certain nombre d'idoles. Et donc, par rapport à ça, je vais vous prendre un exemple. On a Marianne. Tout le monde connaît Marianne en France. Eh bien, Marianne, quand vous recevez un courrier de la République ou en recevant votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous avez en filigrane la République française qui est incarnée par Marianne. Et Marianne, c'est une idole. Dans la Bible, on en parle. C'est Astarté, c'est Ishtar. Et Marianne... C'est intéressant parce qu'on voit qu'on lui a rendu un culte, encore un culte massif, la nation dans sa globalité, les hommes politiques, les citoyens ont rendu un culte massif, place de la République, début janvier 2015, à l'issue de l'acte terroriste. Tout le monde est allé rendre un culte à Marianne en faisant une dévotion devant Marianne, en mettant des bougies et en ayant un temps de silence autour de la statue de Marianne de la République, en fait. Hein, cette femme très forte, etc., qui est place de la République, c'est la République, mais c'est Marianne. Et en fait, on voit bien que dans la Bible, dès l'Ancien Testament, dès le démarrage, dès la Genèse, Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Abraham, il quitte ce dispositif idolâtre, il quitte Ishtar, il quitte tous ces cultes qui existaient à l'époque d'Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ, il fuit tout ça pour véritablement, parce qu'il est à l'écoute de Dieu et que Dieu lui a fait comprendre que tout ça n'était que vanité, n'était que fadaise, n'était qu'illusion et que Dieu l'appelait véritablement. Il a quitté la ville où il était vraisemblablement, parce que la ville c'est toujours le symbole de la stabilité, de la protection, pour aller, pour devenir nomade. Et on voit bien que nous, si demain on nous demandait d'être nomade, eh bien, on aurait des difficultés, il y aurait beaucoup d'épreuves, etc. Eh bien, c'est véritablement ce que Abraham a fait, vraiment. Et donc, on voit bien que Abraham, il a quitté les idoles. Et en fait, en quittant, à 40 ans, en quittant la maçonnerie, j'ai été dans ce dispositif. Alors, je ne suis pas en train de me prendre pour Abraham, mais comme Abraham, Dieu m'a appelé et m'a fait comprendre, même si encore à 40 ans, je n'étais pas capable... puisque je ne lisais pas la Bible, de pouvoir dire les choses d'un point de vue biblique. Mais Dieu m'a fait comprendre que Marianne, la déesse raison, cette grande déesse républicaine, elle était creuse, qu'elle était vaine et qu'elle nous amenait dans le mur. Et on l'a bien vu par les expériences du XXe siècle, telles que l'expérience communiste, ou l'expérience nazie, qui sont des expériences à chaque fois de l'homme sans Dieu, de recherche d'un idéal, mais où Dieu n'est pas présent. Et donc, quelque part, ce temple de la raison de la Révolution française eh bien, il nous amène à Marianne, et Marianne nous amène bien au néant, au vide. Et Dieu nous envoie des signes, Dieu nous parle, Dieu nous fait comprendre que on a beau dire liberté, égalité, fraternité, ben ça ne suffit pas. Si on ne se tourne pas vers Dieu, si on véritablement on dédie pas sa vie à Dieu, si on ne fait pas cela, eh bien on reste dans l'égarement, on reste dans des idées troubles, comme un aveugle. On voit pas véritablement où on va et où est-ce que notre vie nous mène. Et voilà, donc entre 30 et 40 ans, c'est ce qui s'est passé. J'ai été en maçonnerie, j'ai été avec des frères qui étaient très fraternels, qui insistaient fortement sur cette fraternité, et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas plus fraternels que ceux qui ne se disaient pas frères. Et voire même que la fraternité pouvait être davantage présente en dehors de la maçonnerie. Et donc ça, c'est aussi, c'est Dieu qui m'a permis de voir ça rétroactivement. Et ce côté vain de ces fausses relations, eh bien, il n'y a que Dieu qui peut nous faire comprendre qu'en le suivant lui et lui seul, eh bien, on se départit de toutes ces idoles, de toute cette fascination. Et donc, dès lors qu'on sort de la fascination de l'autre et qu'on passe de la transcendance de l'homme par l'homme à la transcendance avec Dieu véritablement présent, qui est présent pour tous les hommes, et tous les hommes étant au même rang, où là on a véritablement une véritable égalité, chaque homme a sa part, chaque homme est à l'image de Dieu, chaque homme est appelé par Dieu, quel que soit son dispositif, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa vie, et on voit bien que après la liberté, cette égalité, eh bien, c'est une égalité qu'on ne peut avoir qu'en Dieu, et pas cette liberté que nous propose la République, pas cette liberté que nous propose Marianne, véritablement. Et puis cette fraternité, on voit bien que cette fraternité, ce que je vous indique en maçonnerie, eh bien, c'est une fraternité forcée, c'est une fraternité qui n'en est pas une, en fait. Parce que dès lors qu'on ne se tourne pas vers Dieu et qu'on reste fasciné par l'autre, eh bien, à un moment donné, on devient jaloux de l'autre. Et quand on regarde tous ces versets dans la Bible, de quoi nous parle-t-il ? Il nous parle de ça, et que de ça. Le dernier commandement, c'est « tu ne seras pas fasciné par ton voisin, la femme de ton voisin, le champ de ton voisin, le bétail de ton voisin, etc. » Et donc on voit bien qu'on est systématiquement dépendant de l'autre et dans la fascination de l'autre dès lors qu'on n'est pas en présence de Dieu. Alors on reste pécheur, mais il se trouve que dès lors que Dieu nous a retourné comme une crêpe et qu'on s'est tourné vers lui, que Dieu nous a tourné vers lui, eh bien là véritablement les chaînes tombent, là véritablement on retrouve cette liberté, là véritablement, on regarde l'autre comme un frère ou comme une sœur, et on n'est pas sous la tentation du diable qui susurre à nos oreilles, ah, t'as vu celle-là ou t'as vu celui-là, et rentrer dans ce dispositif de fascination et de mépris véritablement. Et donc, eh bien Dieu, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait retourner vers l'Église catholique. J'avais un fils qui, à l'époque, avait 7 ans, et comme j'étais encore, on va dire, pharisien, il me semblait important qu'il ait une instruction religieuse. J'ai frappé à une église, je suis tombé sur un curé qui, manifestement, n'était pas très intéressé par la parole de Dieu, et il m'a dit, bah, écoutez, inscrivez votre fils au catéchisme, etc. Et puis après, dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de tomber sur un collègue qui était dans une démarche comme la mienne, un peu plus aboutie véritablement, et il m'a amené dans un temple protestant, dans une église baptiste, dans le 14e arrondissement, rue Bonnier, et mon cheminement est bien réel, et donc cette Bible celle que j'ai entre les mains, je l'ai achetée en 2006 et j'ai commencé à lire la Bible à cette époque-là. Et c'est clair qu'avant, j'avais une Bible catholique que ma marraine m'avait offerte à mes 18 ans, la Bible de Jérusalem, une très belle Bible que j'ai essayé une ou deux fois d'ouvrir et de lire, et ça me semblait un langage complètement abscon, dépassé, et ça ne me parlait absolument pas. Et cette Bible, eh bien, c'est la même Bible. Eh bien, en 2006, à 46 ans, j'ai commencé à la lire. C'est vrai qu'au début, je l'ai lue parce que Dieu m'a, comme Abraham, m'a transmis, m'a donné sa foi, m'a éclairé. Le Saint-Esprit m'a véritablement parlé et je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas, rien n'a été époustouflant. J'ai pas eu de signes visibles, ostentatoires, très forts, mais il m'a fait cheminer. Et donc, dans ce cheminement, après, je me suis retrouvé dans un groupe où on a lu à la fois la Bible. J'ai commencé dans cette église baptiste. Après, je me suis retrouvé dans un groupe où on lisait à la fois la Bible et le Coran. Et puis, en 2012, je suis allé aux États-Unis, dans une église évangélique. Et là, j'ai véritablement compris ce qu'était le Christ, ce que le Christ est pour moi, ce que le Christ est pour nous tous, ce que le Christ, en tant qu'homme, a fait pour nous montrer le chemin, et ce que le Christ, en tant que Dieu, a aussi fait pour nous, véritablement, en portant nos péchés. Puisque dans les époques antérieures, et quand j'étais franc-maçon, j'avais conscience de ce mur qui était face à moi, des péchés manifestes que je portais et que dont j'étais porteur. Mais je pensais qu'il fallait que j'y arrive par moi-même et qu'il fallait que ce mur je le dépasse par moi-même. Mais non, clairement, dans cette année aux États-Unis. À lire la Bible en anglais, à être dans une communauté très en présence de Dieu, eh bien, j'ai véritablement compris que eh bien, c'était véritablement en me repentant de mes péchés, en me tournant vers le Seigneur, en lui demandant pardon, que j'avais le salut. Et que tout cela, eh bien, c'était le Christ qui l'avait apporté à la croix pour moi, personnellement, mais aussi pour nous tous. Et voilà, donc, et l'an dernier, je me suis retrouvé dans cette église, revenant en France, je me suis dit, il faut que je trouve une communauté. J'ai commencé à aller dans une église Church of Christ, dans le 17e, dans le 14e. Manifestement, ça n'allait pas. Je suis allé sur Internet, j'habite Place d'Italie. J'étais déjà passé à vélo dans la rue des Gobelins, et j'avais déjà vu ce petit panonceau d'une église qui me semblait peut-être avoir existé. Et donc j'ai franchi la porte, la grille, et un dimanche, je suis venu, et puis c'était il y a un an, et j'ai rencontré Rénal et la communauté ici présente, et j'ai demandé mon baptême, et en fait j'ai été baptisé en début juillet dernier. Et depuis, ben, je continue ma route. Dieu, dans son infinie miséricorde, m'a vraiment fait me débarrasser des idoles. Et c'est vrai que ce mot, il paraît complètement vieillot, on a du mal à le comprendre. Et Dieu a tellement bien fait son œuvre, parce qu'on est dans un monde profondément chrétien, et on ne se rend plus compte, on a la chance de pouvoir sortir dans la rue, de ne pas être attaqué. On a une certaine... une paix, une grande paix. On le voit bien quand on voit ce qui se passe dans certains pays du monde. On a la chance d'être dans cette paix-là. Et donc, du coup, beaucoup de gens sont ingrats, ne se rendent pas compte que cette paix, eh bien, elle n'existe que parce qu'il y a eu, à un moment donné... beaucoup plus de personnes qu'ailleurs qui se sont tournées vers le Seigneur, qui ont demandé pardon et qui ont glorifié Dieu et Dieu seul. Même si on est tous imparfaits, même si on est tous pécheurs, malgré tout, il y a eu cette concentration et on est bénéficiaire de ça et on a une responsabilité en tant que chrétien aujourd'hui à témoigner. Et donc voilà, bien Dieu dans mon existence m'a fait cheminer lentement, progressivement, mais aujourd'hui, Dieu m'a libéré, vraiment. Dieu m'a libéré, m'a libéré de ce fardeau, m'a libéré de toutes ces chaînes que l'on vend dans l'ensemble de la société occidentale et dans la société française, de la pseudo-liberté par soi-même, de la confiance en soi et qu'en soi. Et donc tout ça, ce ne sont que véritablement des fadaises, tout ça ne sont que des pièges du diable qui fait qu'on est complètement dos au mur et dans l'incapacité d'avancer. Et ça explique pourquoi on a autant de personnes dépressives en Occident et en France en particulier. La France est un des pays les plus dépressifs du monde parce que véritablement, on a surgonflé l'ego. Voilà. Donc, en conclusion, je voulais simplement finir par deux, trois versets de la Bible qui me semblent correspondre au témoignage que je vous ai fait jusqu'à présent. Je voulais commencer par le verset de la Genèse, du chapitre 12, verset 1, où l'Éternel parle à Abraham. Il ne s'appelle pas encore Abraham, c'est Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et véritablement, c'est ça qui se passe pour chacun d'entre nous. Dès lors que on est touché par le cadeau que Dieu nous fait, dès lors qu'on est touché par sa grâce, par sa miséricorde, eh bien Dieu nous fait abandonner nos idoles, vraiment. Petit à petit, ça se fait pas comme ça, mais déjà prendre conscience de nos idoles, c'est énorme. Et ça, c'est que parce que Dieu le veut bien. C'est pas par nos petits bras qu'on peut arriver à ça. Ça n'est que par l'infini cadeau que Dieu nous fait, par l'infini grâce que Dieu nous fait. Ensuite, je voulais vous lire le verset 2 du livre des Rois, le deuxième livre des Rois, dans le chapitre 17, verset 16. Et donc, dans ce deuxième livre des Rois, chapitre 17, verset 16, « Ils abandonnèrent à tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. » Ils se firent deux veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Et véritablement, eh bien, quand on voit ce moment de grande inquiétude, de frayeur dans laquelle nous avons été en ce début d'année, quand on voit le désappointement des citoyens, eh bien, ils sont allés véritablement se prosterner devant Astarté. Ils sont véritablement allés dans l'égarement, en étant sourds et aveugles. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers cette idole. Et donc, c'est intéressant de voir que, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous met en garde de tout ça. Et quand on est juif soi-même, 1000 ans avant Jésus-Christ, et qu'on entend et qu'on lit cela, eh bien, on est exactement dans la même situation. L'homme n'a pas, on n'a pas avancé, et on est vraiment comme à l'époque, à vouloir à chaque fois se reconstituer des faux dieux, des fausses déesses, et ne pas se consacrer qu'à Dieu et à Dieu seul. Après ça, le psaume 97, 7, ils sont conçus, ils sont confus. Tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Donc là, c'est véritablement encore un témoignage. Et puis ensuite, Ésaïe 44, 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence. Afin qu'il soit dans la confusion. Et enfin, dans ces textes de l'Ancien Testament, conclure par un début de texte que tout le monde connaît, mais qui a une grande portée, surtout dans notre société aujourd'hui, c'est le début de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité en dehors de Dieu, véritablement. Et ça, dès lors qu'on commence à comprendre quelles sont nos idoles, dans quelle voie on s'est fourvoyé, et qu'on comprend qu'on a fait tout ça pour ça, on est libéré. On est libéré parce que Dieu nous a enlevé des cordes. Dieu nous a véritablement enlevé des enchaînements à des choses qui étaient futiles, qui n'avaient aucune importance. Voilà, donc je ne vais pas vous lire tous les textes suivants, mais en tout cas, il y en a un qui est intéressant, que je vous invite à lire personnellement, c'est Acte 17, où quand Paul, à Athènes, est en présence des philosophes, véritablement. Et on voit que ces philosophes, la seule chose qui les intéresse, c'est de parler, c'est de parler les uns les autres, c'est de se flatter les uns les autres, en fait. C'est dans une joute verbale, dans un discours. Il y a un signe d'encouragement, quand même, puisque, à la fin, dans le verset 34 du chapitre 17 des Actes, Paul, il est indiqué que quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, et en l'occurrence, il cite Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Voilà, véritablement. Et puis, pour moi, le texte le plus important, vraiment, sur l'idolâtrie et la confusion dans laquelle cette idolâtrie nous mène et mène notre monde actuellement, c'est véritablement l'Épître aux Romains, chapitre 1. Et donc, ce livre, cet Épître aux Romains, et surtout dans son chapitre 1, nous permet véritablement de comprendre que dès lors qu'on adore la créature et pas le créateur, on est soumis à toutes les subversions, à toutes les perversions, à tout et n'importe quoi. C'est le désordre total et absolu. C'est en fait le commencement du règne du diable. Et on voit bien que c'est le monde dans lequel nous sommes, mais dès lors que Dieu nous touche, et qui nous permet d'identifier quelles sont nos idoles, on passe de la créature au créateur. Seigneur, vraiment merci de m'avoir fait passer, de m'avoir permis d'être en contact avec toi et toi seul. Amen.
Voilà, donc deux témoignages, vous avez eu là déjà, sur ce monde de l'ésotérisme, des sociétés secrètes, quelques aspects, vous avez pu voir. Et maintenant, je propose, dans la dernière partie, alors je pensais donc dire quelques généralités sur l'ésotérisme, et puis commenter un texte biblique clé. Donc déjà, on a été mis sur la voie à travers le témoignage d'Éric. Alors, quelques notions sur l'ésotérisme. On ne va vraiment pas s'étendre. On a parlé un petit peu du parcours de quelqu'un qui était une société secrète. Moi, j'ai parcouru comment j'ai connu en partie les Rosicruciens. Qu'est-ce qu'on entend par l'ésotérisme? C'est un mot assez courant. Alors, quand on dit ésotérisme, à quoi vous pensez, vous, comme ça, spontanément? C'est quoi? L'ésotérisme, ça vous fait penser à quoi?
Un peu secret, tout ça.
Oui, un peu secret, oui. Oui. Les autres, vous diriez quoi, là, comme ça, le mot ésotérique
En rapport avec la spiritualité.
Oui, tout à fait. Il y a très souvent une spiritualité dans l'ésotérisme. Comment?
Le monde des esprits.
Le monde des esprits, on peut. Oui, ça spontanément, vous diriez quoi, les autres?
Le spiritisme.
Le spiritisme, oui, oui. Oui, les autres. Un univers très très vaste, très complexe aussi, hein, il y a beaucoup, beaucoup de courants hein, dans l'ésotérisme.
Une recherche du surnaturel.
Oui. Oui.
Tendre vers le surnaturel.
Oui, 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 c'est vrai qu'il y a, il y a une quête un peu de c'est vrai, du surnaturel. Hein, oui.
Quelque chose d'un drôle de Dieu.
Alors, on parle beaucoup de Dieu, par contre. Hein, mais c'est vrai qu'en dehors du Dieu de la Bible, peut-être, on pourrait dire, en tout cas, du Dieu révélé en Jésus-Christ, même s'il y a un ésotérisme proche du christianisme. Hein, tout à l'heure, j'ai parlé, par exemple, de la pierre philosophale, ou en tout cas de l'alchimie, et des courants autour c'est des formes d'ésotérisme, on va dire gnostique, et des formes d'ésotérisme qui prennent beaucoup de textes de la Bible. Alors, oui, on va pas se lancer dans une définition. Hein, j'ai repris quelques éléments sur l'ésotérisme, tel qu'on peut les voir. Là, il y a plusieurs sites hein, qui sont ultra spécialisés là-dedans. Alors, j'ai trouvé l'article de Wikipédia relativement intéressant, aussi qui donne quelques éléments, quelques traits, pour essayer de caractériser l'ésotérisme. Alors souvent, donc dans l'ésotérisme, si je fais une toute petite synthèse de plusieurs auteurs qui sont cités, une des premières caractéristiques, c'est qu'il y a, comme le mot ésotérique l'indique dans son étymologie, éso, c'est qui est fermé, exo, c'est ce qui est vers l'extérieur. Donc on dit ésotérique, c'est parce que c'est un cercle fermé. C'est un cercle d'initiés, ce sont simplement quelques personnes qui ont accès à un certain nombre de vérités. Donc l'une des premières caractéristiques, effectivement, dans tous les courants ésotériques, c'est qu'il y a une sorte d'enseignement secret. Oui, il y a le mot secret dedans, oui, on peut dire, c'est un mot qui revient souvent dans l'ésotérisme. Et puis alors après, un autre élément, c'est que dans l'ésotérisme, il y a toujours une vision, ce qu'on appelle une cosmologie, c'est-à-dire une explication du monde. Chaque courant ésotérique a sa propre lecture des choses, souvent en s'imprégnant de différentes religions et de révélations un peu particulières. Donc il y a une cosmologie dans le sens, comme ils le définissent là dans l'article que j'ai, une connaissance des phénomènes et des causes du monde. Donc on retrouve quelques explications sur l'origine, sur le but, la raison pour laquelle le monde est là. On trouve aussi dans la plupart des enseignements ésotériques une certaine anthropologie, une description de ce qu'est l'être humain, son origine aussi, sa destinée, son intériorité, son aspiration. Donc forcément, il y a une approche anthropologique, mais il y a aussi une théologie dedans, ou une théosophie, hein, on peut employer le mot, c'est-à-dire qu'il y a très souvent un rapport à Dieu. Dans la plupart des courants ésotériques, il y a une spiritualité qui fait référence au monde des esprits ou à Dieu, et qui donne des explications donc sur comment entrer avec ses secrets divins, etc. Alors voilà, donc il y en a de très très nombreux, mais maintenant, dans la dernière partie, j'aimerais lire avec vous un texte, parce qu'il y a une lettre dans la Bible, une épître, où Paul s'adresse à des chrétiens qui étaient dans la ville de Colosse, et il se trouve que dans cette ville, il y avait un enseignement ésotérique très important. Eric nous a parlé, effectivement, les religions mystères étaient très développées dans l'Antiquité, même si ce n'était peut-être pas le plus important des religions, on va dire, en dehors du judaïsme, qui était bien imprégné dans les grandes villes, c'était probablement le stoïcisme. Si on enlève le stoïcisme, les religions mystères étaient très développées, et à Colosse en particulier, on sent qu'il y avait un impact même sur ces chrétiens qui étaient déstabilisés par ces grands maîtres à penser de ces religions en mystère. Et Paul les met en garde, et j'aimerais donc commenter dans la dernière partie cette mise en garde, parce que pour moi, en tout cas, elle a été vraiment salutaire, pour comprendre et me débarrasser, en tout cas, de certains dangers qu'il y a dans ces enseignements-là. Alors, Paul, il dit, au chapitre 2 de Colossiens, sur une Bible, à partir du verset 8, il dit « Prenez garde ». C'est une mise en garde solennelle qu'il fait à ces gens qui avaient vécu une découverte de l'Évangile par le témoignage d'Epaphras qui portait cette église vraiment, qui a été témoin de l'évangile dans cette ville de Colosse. Et lui-même, Epaphras, est en contact à Éphèse avec Paul, qui est resté 3 ans à Éphèse. Et bien là, la ville de Colosse avait connu l'émergence d'une petite communauté chrétienne et qui avait grandi. Et cette communauté se retrouvait donc très influencée négativement par ces courants ésotériques, hein, c'est le mot qu'on emploierait aujourd'hui, qui malheureusement influençaient dangereusement ces chrétiens et se sont laissés déstabiliser pour plusieurs d'entre eux. Et Paul leur écrit parce qu'il était au courant un peu de ces tensions qu'il pouvait y avoir, ce danger qui était là devant cette église, enfin par rapport à ces chrétiens. Verset 8, « Prenez garde que personne de vous ne fasse sa proie par la philosophie, mais le mot là, voilà, c'est l'étude d'une sagesse, on pourrait traduire comme la NBS, une philosophie vaine et creuse. C'est pas forcément la philosophie en général qui est condamnée, parce que le christianisme c'est aussi une forme de philosophie, c'est une étude aussi de la sagesse. Mais ce qu'il condamne, ce sont des personnes qui veulent faire de ces chrétiens de Colosse leur proie par une sorte de philosophie et une vaine tromperie qui s'appuie sur la tradition des hommes, premièrement. Deuxièmement, qui s'appuie sur ce qu'il appelle les rudiments du monde. Et il ajoute, et non pas sur Christ. Parce que c'est en Christ, dit-il, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est en lui que vous avez tout pleinement. Et c'est lui qui vous a donné cette opération intérieure la plus extraordinaire qu'on peut attendre, qu'il appelle, au verset 11, la circoncision du cœur, qui consiste en un dépouillement des forces du mal qui sont à l'intérieur de nous, et pour nous régénérer à une vie nouvelle. Alors j'aimerais commenter ces quelques versets clés qui sont développés, enfin je veux dire, cette pensée de mise en garde, elle est très présente dans ce chapitre 2 de Colossiens. Il dit « Prenez garde que personne de vous ne fasse sa proie ». La première chose que je relève, c'est qu'il y a dans ce monde beaucoup d'idéologies qui cherchent à faire de nous sa proie, leur proie. Il y a, c'est vrai, des personnes qui sont habitées par des convictions, et c'est une bonne chose que de pouvoir partager ces convictions, mais malheureusement, il y a derrière ces idéologies des forces qui amènent les gens à essayer d'envoûter des personnes, de manipuler. On l'a vu, hein, aujourd'hui, en fait, le triste 70e anniversaire de la mort de qui ? Vous savez ? Hitler, ouais. Aujourd'hui, c'est ce triste anniversaire de ce monstre que le monde a connu. Hein, mais c'est impressionnant, en parcourant sa vie, comment un homme... D'ailleurs, il n'y a pas eu d'hommes comme lui qui ont été l'instrument de malédiction. Hein, on dit que cet homme, à lui seul, a été la cause de 60 millions de morts. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup d'hommes aussi glorieux dans le sens négatif du terme et le sens abominable du terme. Hein. Mais quand on étudie un peu sa vie, puisque c'est en ce moment, on en parle un petit peu partout, on voit comment il a pu envoûter des gens. À tel point que même encore dans les années 1950 ou 60, quand on faisait des sondages en Allemagne, on disait, pourtant l'Allemagne s'était dénazéifiée, entre guillemets, hein, en partie, mais dans les sondages, quand on disait, bon, en dehors de la guerre, qu'est-ce que vous pensez d'Hitler ? Et à peu près 50% de la population disait que ça a été le plus grand chef d'État que l'Allemagne n'a jamais connu d'histoire. Et c'est intéressant qu'encore des générations après, alors bien sûr, ils ne le disent pas trop fort, puis bien sûr, ils reconnaissent aussi qu'il y a eu des choses abominables, hein, mais c'est un homme envoûtant. Et ce que Paul nous dit ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont le pouvoir de faire de nous leur proie. On le voit dans les sectes, malheureusement, comment à partir de l'enseignement de telle ou telle personne, on va essayer d'envoûter les gens. Et dans l'ésotérisme, c'est très fort, dans l'ésotérisme. Il y a une puissance de manipulation. Moi, je l'ai vu vraiment en direct par des pseudo-sorciers, des gens qui essaient de fasciner les personnes. Mais dans quel but ? D'envoûter. Alors on le trouve aussi hein, dans des dérives chrétiennes, des mouvements chrétiens des fois un peu bizarres et farfelus, où il y a des gens, c'est plus des hypnotiseurs de foule qu'autre chose. Hein, eh bien là, Paul nous met en garde contre ceux qui veulent faire de nous leur proie. À partir d'enseignements qui s'appuient, il dit, sur deux choses. Sur des traditions humaines. Il faut voir que dans l'ésotérisme, même s'il y a une spiritualité derrière, il y a quasiment que des traditions humaines. Et malheureusement, parfois aussi dans les religions, il y a beaucoup aussi de traditions très humaines où on mélange un petit peu ce qui est de la révélation même de Dieu et de ce qui n'est que des traditions purement humaines. Et bien Paul dit « Prenez garde que personne de vous ne fasse sa proie, ne vous envoûte et ne vous entraîne dans toutes sortes de dangers et de manipulations par des philosophies ou des idéologies, des vaines tromperies qui s'appuie sur la tradition des hommes, et il ajoute sur des principes élémentaires ou les rudiments du monde. C'est un mot, en grec on dit stikia, stoikeia, si on prononce toutes les syllabes, c'est un mot assez étrange, mais c'est un mot qui est interprété aujourd'hui comme un mot désignant des forces spirituelles diaboliques, qui tiennent le monde par des rudiments, des principes élémentaires. Et alors, qu'est-ce que peuvent être ces principes élémentaires? C'est vrai, quand on lit Colossiens et Galates, c'est là où Paul utilise à plusieurs reprises ce mot très particulier. Il désigne des éléments purement humains, mais derrière lesquels se trouvent des forces diaboliques. Ce sont des vérités, on va dire, des grands principes de ce monde, mais qui sont en contradiction ouverte. C'est par exemple des formes d'humanisme, l'exaltation de l'être humain. C'est un des grands principes des rudiments du monde, le moi. Et moi, je l'ai vu particulièrement dans l'ésotérisme. Comment, par exemple, dans le mouvement alchimique, ce qui m'a ouvert les yeux un jour, quand j'ai prié, supplié Dieu de me montrer. J'avais relu ce petit livre dont je vous parlais tout à l'heure, de méditation alchimique, et je l'avais relu en entier un soir. Et c'est ce fameux soir, d'ailleurs, où tout a basculé dans ma vie. Je l'ai relu en entier, mais en demandant à Dieu de me montrer. Ce Dieu qui était encore pour moi obscur, à ce moment-là de la journée, et juste après, les choses se sont éclairées complètement. Mais je lui ai demandé de me montrer. Dieu avait préparé ce moment-là. Et quand j'ai lu, c'était pas très long, hein, c'était un petit livret, je sais pas, peut-être 100 pages, et j'ai parcouru ce livre. Et une chose qui m'est venue vraiment d'une manière très claire, c'est qu'il y a une exaltation du moi. On nous fait croire que voilà, mais si tu t'intéresses à ça, c'est que tu es un élu, tu étais choisi, tu es quelqu'un de bien supérieur aux autres, tu es pas comme la masse de ces gens qui sont autour, toi tu es vraiment, on caresse dans le sens du poil, n'est-ce pas, les gens, et souvent dans ces techniques de manipulation qu'on trouve dans l'ésotérisme et dans tous les mouvements manipulateurs d'ailleurs, hein, on essaie vraiment soit par la peur, soit par en caressant les gens et en leur donnant une illusion sur eux-mêmes. Et on fait comprendre d'ailleurs ce que le serpent a dit un jour à Adam et Ève. Si vous mangez de ce fruit défendu, il n'est pas si défendu que ça, ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous mangez de ce fruit-là, vous verrez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez vous-même, vous connaîtrez le bien et le mal et vous serez comme des dieux. Et il y a là l'un des grands principes élémentaires de toutes les philosophies de manipulation de ce monde et de toutes les idéologies manipulatrices de ce monde. On cherche à gonfler le moi pour essayer d'envoûter les gens et les tenir. Alors là, il dit, méfiez-vous de ces enseignements, de ces philosophies trompeuses qui s'appuient sur simplement des traditions humaines. On dit d'ailleurs de la philosophie, ça plane pas toujours très haut, n'est-ce pas? Ça reste toujours en dessous du plafond. Parce que la philosophie, elle ne fait que brasser des idées purement humaines. Même s'il y a des gens qui sont très brillants à brasser des idées en tous les sens, ils ne restent que sur des idées purement humaines. Tandis que là, pour Paul, il y a quelque chose d'autre que des idées purement humaines. Il y a dans ce monde une révélation. Une révélation de Dieu en Jésus-Christ. C'est lui qui vient manifester la présence de Dieu. C'est lui qui nous dévoile qui est Dieu. L'introduction de l'évangile de Jean nous dit dans ses 18 premiers versets que eh bien, celui qui est de toute éternité là devant Dieu et qui est lui-même Dieu s'est fait homme un jour. Et la mission qu'il se donne, lui, le Fils, le Logos divin, il dit personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui nous dévoile réellement Dieu. Et ce dont nous avons besoin, et ce que Paul en tout cas met en avant pour les Colossiens, c'est qu'il faut découvrir non pas les traditions humaines, tout ce brassage d'idées qui ne fait pas avancer du tout les choses et qui ne nous amène pas à comprendre la réalité et le monde tel que Dieu l'a fait. Eh bien il dit, méfiez-vous de toutes ces traditions, de toutes ces philosophies vaines et trompeuses qui s'appuie sur les traditions des hommes, sur les principes rudimentaires du monde, et qui ne s'appuie pas sur Christ. Alors c'est vrai que c'est sur ce point que j'aimerais conclure, c'est que le message de la Bible nous met en garde contre toutes les philosophies de ce monde, toutes les idéologies de ce monde qui nous présentent finalement des choses glorieuses sur le sens de la vie, sur qui nous sommes, sur une sorte d'espérance, parce qu'on a besoin d'une certaine espérance dans ce monde où il y a tellement peu d'espérance. Mais le problème, c'est qu'on utilise des choses qui ne sont que des traditions humaines ou que des mensonges. Là, il nous dit, et Paul dit aux Colossiens, méfiez-vous de ces choses-là, de ces personnes qui utilisent ça pour faire de vous leur proie et qui s'appuient sur ces traditions humaines et non sur Christ. Parce qu'il dit sur Christ, c'est là que vous allez trouver. Il dit, en fait, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Une phrase vraiment surprenante. En Jésus-Christ habite pleinement, complètement, la plénitude de la divinité. C'est un mystère, c'est vrai, dans la Bible, qui nous dit que en Dieu le Père habite totalement la plénitude de la divinité, en Dieu le Fils habite complètement la plénitude de la divinité, et dans l'Esprit habite complètement la plénitude de la divinité. Pourtant, il n'y a pas trois dieux, ils partagent une même et parfaite divinité, mais avec des facettes, on pourrait dire, et avec aussi une distinction, un peu, entre chacun des êtres. Et Paul nous dit ici que dans le Christ se habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est en lui que vous êtes comblés. C'est lui qui remplit vos vies. C'est lui qui va vous donner ce que toutes ces philosophies trompeuses vous prétendent vous apporter. C'est le Christ seul qui peut vous l'apporter. En tout cas, moi je peux en témoigner, Eric nous l'a fait comprendre aussi tout à l'heure, c'est lui et lui seul qui peut apporter cette transformation qu'il appelle ici la circoncision du cœur, et qui nous permet de connaître une sorte de délivrance des forces du mal en nous, qu'il appelle ici le corps de la chair, qui peut être dépouillé en nous, taillé au plus profond, pour nous permettre de vivre maintenant unis au Christ, comme greffés au Christ, et marcher en nouveauté de vie. Alors en conclusion, donc, nous avons fait un survol de deux expériences, de chemins qui ont conduit de l'ésotérisme à l'évangile. Ce texte de Colossiens nous fait comprendre que le Christ nous invite aujourd'hui à nous tourner vers lui. Il ne fait pas pression. Contrairement à toutes les puissances de manipulation qui sont dans les idéologies humaines, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, c'est-à-dire recevez mes instructions. Il ajoute, car je suis doux et humble de cœur. Je ne suis pas comme ces gens qui cherchent à manipuler les personnes. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger, dit Jésus. Donc il y a, en gros, pour faire très simple, lorsqu'on lit le texte de la Bible à la lumière en particulier de Colossiens, il y a dans ce monde deux grands courants de pensée. Le premier courant, c'est celui qui s'appuie pleinement sur le Christ, qui met de côté toutes les traditions humaines, pour se centrer sur le Christ et qui nous permet de découvrir en lui tout pleinement, une vie nouvelle et comblée en lui. Et puis il y a tout le reste des enseignements, religieux ou athées ou agnostiques ou ésotériques, mais qui s'appuient eux sur les traditions humaines. Alors que Dieu nous donne de faire le bon choix. Voilà ce que je voulais partager et voilà, j'aimerais laisser là maintenant la parole s'il y a des questions avant que nous, peut-être nous concluions par un moment de prière. Est-ce qu'il y aurait des questions peut-être à poser ou des remarques ou des...
Une petite question.
Oui.
Est-ce que vous avez fait avec vos livres ?
Ah oui, alors c'est une bonne question. J'ai pas dit tout de suite, mais il se trouve que mes livres, en tout cas dans la première phase que j'ai eue, quand j'ai découvert vraiment Jésus-Christ, mais moi je dirais de manière surnaturelle, parce que je pense pas que... Dieu m'a fait comprendre que je cherchais la vérité. Mais vraiment, je cherchais la vérité, j'étais imprégné par ces idées, certaines idées ésotériques, et j'en faisais, comme dans certaines techniques de sagesse, j'en faisais vraiment le but de ma vie. Et l'un des règles de base de la recherche de la vérité, c'est qu'il faut chercher la vérité. On donne l'image de quelqu'un qui est sous l'eau, qu'on tient sous l'eau, qui recherche à respirer. Il faut que vous cherchiez la vérité de la même façon. Alors moi, j'ai essayé de vraiment chercher, mais Dieu m'a fait comprendre que dans ma recherche, je partais complètement à l'opposé. Dans ma recherche, quand l'homme livre à lui-même cherche le sens de la vie, ben en fait, il n'a pas le sens de l'orientation. Et bien souvent, la véritable lumière de Dieu lui fait un effet de repoussoir. Et il ne s'en rend même pas compte, mais il part. Il est attiré par ce qui est en résonance au fond de lui, c'est un monde de ténèbres. Et il est attiré par les ténèbres. Donc, Dieu m'a fait comprendre dans cette soirée-là que, en fait, toute ma quête de spiritualité, il a lu tout à l'heure « Vanité des vanités, toutes les vanités ». Dieu m'avait donné ce verset quelques mois avant, qui m'avait percuté, qui m'avait secoué fortement. Eh bien, il m'a fait comprendre que toute ma quête de spiritualité, c'était une quête qui n'était rien d'autre qu'une quête du moi, de devenir moi comme un dieu, je ne sais quoi, de me gonfler moi-même. Mais ce n'était pas une recherche sincère de la vérité. Et quand j'ai compris ces choses-là, et que tous ces livres que je lisais, des Rosicruciens, des alchimistes, etc., Dieu m'a fait comprendre, sans qu'on me l'explique, hein, ce soir-là, j'ai pris la décision de brûler ces livres. Et je l'ai fait le lendemain, j'ai brûlé les livres. Je parle des voisins, ils m'ont dit, il est un peu malade celui-là, qu'est-ce qu'il fait là, il brûle ses livres. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Alors, dans la Bible, j'ai découvert par la suite que dans les Actes, au chapitre 18, les Éphésiens avaient des livres de magie qui avaient une grande valeur, et quand Paul leur a prêché le message de l'Évangile, ils ont eux-mêmes brûlé ces livres. Alors bien sûr, par la suite, j'ai racheté quelques livres, mais non pas pour me nourrir de ces choses-là, c'est plutôt pour combattre quoi, ces choses.
Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com